Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone, nous voici réunis dans les salons de la librairie Mola pour recevoir et écouter Vladimir Fedorovski, qui nous entretiendra de son ouvrage, le roman de la perestroïka à la cour des tsars rouges, publié aux éditions du Rocher, dans la collection Le roman des lieux et destins magiques que vous dirigez. Vladimir Fedorovski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous débutez votre carrière comme diplomate, polyglotte, interprète de Léonid Brejnev, attaché culturel à Paris, de retour à Moscou, chef de cabinet de Vladimir Petrovski. Vous faites la rencontre d'Alexandre Yakovlev, qui a été une de vos grandes rencontres et qui fut ce que peu de gens ont retenu, l'inspirateur de la perestroïka. Puis vous revenez en France pour faire la promotion de cette perestroïka. De retour à Moscou, vous démissionnez et vous devenez le porte-parole du mouvement des réformes démocratiques. Aujourd'hui, vous êtes l'écrivain russe le plus édité en France. En juin dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir Hélène Carrère-Dancos pour son ouvrage sur les Romanov. Donc nous sommes dans la suite logique des choses. Donc nous allons parler des tsars modernes. Cher Vladimir Fedorovski, nous allons d'abord, pour définir les termes, pour que les choses nous reviennent bien à l'esprit, qu'est-ce que c'était la perestroïka, que vous nous le définissiez?
La perestroïka,
qu'est-ce
dans
que
la
c'était
réalité,
la glasnost?
C'est la fin du communisme, c'est le terme exact, c'est la reconstruction, mais c'est un symbole de la fin du communisme, de la sortie de la, disons, du régime totalitaire. Je dois vous dire que j'ai hésité de publier ce livre parce que c'est les temps anciens. Et j'ai tout connu, je n'ai jamais raconté ça. Et finalement, j'espère bien que j'ai raconté ça d'une manière marrante. Match m'a dit que comme Alexandre Dumas. Mais là, j'étais très flatté. Mais sérieusement parlant, ce n'était pas du tout Alexandre Dumas parce que c'est la réalité qui dépasse la fiction. Et vous comprenez, les temps sont tristes aujourd'hui. Regardez le temps, rien que se balader, mais d'une manière générale. Et vous comprenez pourquoi j'ai dû raconter, je les ai tous vus. Jean-Paul II, évidemment Gorbatchev, les gens de là-bas, Reagan, tous ces gens-là. Et je dois vous dire que je voulais les raconter parce que c'était les gens qui ont changé la face du monde en recherchant l'équilibre, en trouvant l'équilibre. Et finalement, ils ont sorti de ce régime totalitaire sans effusion du sang. La chute du mur, tout ce qu'on a vu quand on était moins âgé qu'aujourd'hui. Et c'était une période assez extraordinaire. C'est un livre un peu tordu. Vous comprenez, si vous lisez, soi-disant Jean-Paul II, mais je parle évidemment des gens d'aujourd'hui, et vous comparez involontairement ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait là-bas. En soi, comme je n'ai jamais raconté, vous avez la vraie histoire de cette période à travers l'exemple quand même russe. L'exemple russe est excessif. Vous avez écouté Carrère-Dancos, mystère, amour, évasion, vous comprenez les assassinats inimaginables. Rien que pendant cette période communiste, 25 millions de morts dû aux efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline, et 25 millions dans la lutte contre les nazis. Les choses épouvantables, inimaginables dans les réalités. Et c'est pour ça qu'il fallait revenir à cette période. L'exemple russe nous alerte. Vous comprenez, ça ne devait se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer pendant le siècle comme ça. Mais le pays a vécu dans le mensonge et dans l'illusion. Et je trouve un tout petit peu de mensonges et beaucoup d'illusions dans la période d'aujourd'hui, ici. C'est pour ça qu'il faut revenir, vous comprenez, à cette période, soi-disant, les choses. Et le fait que c'est sorti sans effusion du sang, ça aurait dû terminer dans les fleuves du sang, dans l'apocalypse mondiale, dans la guerre civile. Et ça s'est terminé sans cela, d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est dû au personnage. Je raconte, vous savez, ma manière de raconter, je raconte toujours ça à travers les personnages, cette fois-ci à travers les personnages que j'ai vus physiquement. Et ça valait la peine de regarder tout ça. Vous comprenez, rien que Jean-Paul II, ça me bluffe toujours. J'ai eu la chance de voir, il disait, c'est une période, c'est un miracle. La sorte, miracle, vous comprenez. Et il a raison, sans effusion du sang. Gorbatchev, artiste devant la politique, il disait cette table...
Quoique vous êtes très sévère avec Gorbatchev.
Pas du tout, pas du tout.
Je trouve que non. Vous le trouvez velléitaire.
Non, vous n'avez... Vous savez, je vais vous dire, vous pensez comme eux tous. Ça, je suis vraiment blessé. Parce que vous pensez que dire que j'ai eu raison, surtout, c'est convaincant. Non, c'est pas du tout convaincant. Il faut reconnaître, ils sont dans les... C'est la grandeur des âmes de se tromper. Gorbatchev, il a commencé une des plus grandes révolutions qui a, on dit, velléitaire. Pas du tout. Je raconte tel qu'il est. C'est un artiste. Il disait la table est brun. Comme je viens de vous dire, la table est noire. Tout est son contraire, vous ne comprenez pas, mais il mettait les gens devant les fautes accomplies. Mais quelle révolution il a fait avec notre concours, avec les gens qui l'entouraient. Mais c'est quand même, c'est une révolution inimaginable. On a sorti de ce régime qui a tué 25 millions sans effusion du sang. C'est extraordinaire. Mais simplement, la grandeur de ce personnage, ce n'est pas du fait qu'il a eu raison sur tout. Vous comprenez, c'est pas du tout. La vie ne fait pas comme ça, monsieur. Vous savez, je vais vous dire, monsieur, je vais vous poser une question que vous posez chaque matin. Est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Et je dois vous dire non. Il doit remplir le contrat avec la nation. Mm-hmm. Vous comprenez?
Bien sûr.
Moi, j'ai connu les présidents extraordinaires. Reagan n'était pas intelligent, c'était un grand président. Vous comprenez, ça, il ne faut pas se tromper. Eltsine, antithèse de Gorbatchev, soi-disant, il s'haïssait physiquement. Mais pour autant, Eltsine et Gorbatchev, ils sont liés dans cette période. Ils ont sorti le monde de ce chose extraordinaire. Eltsine n'était pas intelligent, mais quel personnage extraordinaire.
Il avait l'instinct.
Avec l'instinct politique.
Vous dites qu'il avait l'instinct.
L'instinct politique, etc. Vous comprenez, c'est les choses qu'il faut comprendre. Moi, je vais vous dire ça, c'est vraiment le premier degré, en disant, mais vous faites l'éloge. Si on fait dans leur logique, vous connaissez les hommes politiques et les femmes politiques, ils sont dans l'auto-justification permanente. En être d'autant plus dans l'illusion, souvent. Dans ce cas-là, on ne va pas loin. Il faut raconter les personnages tels qu'ils étaient. C'est ça la force de notre récit. Et tout ça, c'est... Au fait, vous m'avez posé la question sur la perestroïka. La perestroïka, c'est la sortie du régime qui a été créé par les Trotsky, Lénine et Staline. Mais étape par étape, sans effusion du sang. C'est extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de la Russie que ça s'est passé comme ça. Ces deux personnages, ils ont maintenant, Eltsine et Gorbatchev, un avis favorable en Russie. Mais ça ne veut rien dire. Ils vont rester dans l'histoire comme des personnages absolument. Un jour, on va reconnaître évidemment leur rôle tel qu'il était. Mais pour qu'on reconnaisse leur rôle. Vous comprenez, il faut raconter les choses telles qu'elles étaient. Si je vous dis Eltsine, c'était un saint, c'est des bêtises. Ou si vous pensez que c'est quelqu'un qui était simplement l'ivrogne, qui n'a rien fait, pas du tout, c'était un personnage qui a changé ça. Et ils sont paradoxalement complémentaires par rapport à ce qui s'est passé. Regardez le bilan de ça. La liberté à l'Est, etc. Il donne autre chose, l'économie va mal, il allait mal là-bas, c'était une souffrance, post-communisme, là-bas les gens étaient nuls, mais franchement en Occident, ils n'étaient pas à la hauteur non plus dans cette affaire, parce que c'était une chose, regardez le monde, l'état du monde d'aujourd'hui, tout ça c'est rien que si je vous raconte ça, et ça a donné antithèse de la perestroïka, ça a donné, puisque vous savez, je commence... je raconte la sortie du système stalinien. Je pose la question pourquoi Staline, aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire parmi les hommes politiques, historiquement parlant. Il est, chez les Russes, il est plus populaire que Pierre Legrand. Pourquoi ? C'est les choses sont inattendues, les choses sont là. Et ça, c'est, il faut comprendre de quelle manière il fallait pour arriver à ce qui se passe avec Poutine. Pourquoi Poutine est là à la côte ? On dit à Poutine un dictateur, et là en lui quelque chose d'autoritaire. Mais regardez comment elle, je peux vous raconter comment ils ont agi avec la Syrie. Vous comprenez, tout ça, c'est les choses. Il faut nuancer. Il ne faut pas tomber dans les choses comme ça. Mais la période. Pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, de raconter de ça. J'ai vu vraiment physiquement la face cachée de cette période. Et je raconte ça avec beaucoup de joie.
Mais on va commencer justement avec le premier, Khrouchtchev, Monsieur K, comme dirait
non,
Madame Geneviève
Tarnouille. Monsieur, si vous me permettez, il faut commencer par Khrouchtchev, n'est pas significatif.
Pourquoi ?
Khrouchtchev, je vais vous dire, parce que, vous savez, en Occident, vous vivez dans l'illusion. Oui. Vous avez parlé de rapport. Parlons sérieusement. Vous voulez qu'on parle sérieusement ?
Oui, bien sûr.
Si vous voulez qu'on
Qu'est-ce
parle...
que vous voulez ?
Que si on parle sérieusement, je vais vous dire. La réalité de ça, le personnage le plus significatif et tout ça, c'est Staline. Staline, pas Lénine, qui est détesté aujourd'hui, pas Trotsky. Seuls les intellectuels de Paris, de Saint-Germain, pensent que Lénine... Et Trotsky, surtout, il adore Trotsky. Ils sont significatifs. Le personnage le plus significatif, c'est Staline qui a verrouillé le système, qui était un personnage qui s'adressait au code mental du pays, comme disait Brodel, à l'histoire longue du pays. Vous comprenez ? Il y a les épisodes invraisemblables. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais juste un épisode. Vous savez, par exemple, prenez... J'aurais pu raconter comment il a pris le pouvoir, mais l'épisode le plus marquant de ça, c'est le 6 novembre 1941. Les manuels de l'histoire que vous vendez ici à Mola, ils disent Hitler était à une vingtaine de kilomètres du Kremlin. Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. 6 kilomètres, vous comprenez ? Et Staline, il a eu une information à l'époque, Capital était au Kremlin. Capital, il reçoit une information, vous, les gens, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, un des plus grands, je vais sortir d'ailleurs un livre bientôt sur les femmes espionnes, qui s'appelait Sorge, peut-être, ça vous dit quelque chose, un grand espion, espion qui était une sorte de playboy qui partageait sa vie sentimentale avec la maîtresse du premier ministre japonais. Il reçoit l'information capitale que les Japonais ne vont pas attaquer l'Union soviétique à l'époque, ils vont attaquer les Américains. Et Staline a pu se dégager les dernières forces qui ont été massées du côté japonais. 700 000 hommes, il a débarqué ça à Moscou. Il a organisé un défilé de la dernière chance. C'est comme dans Boris Godunov, la tempête de neige, le coupole du Kremlin... Et après, les vétérans entrent en scène sur la place rouge. Ils marchent à peine, une minute, 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, il a fait entrer les forces libérées par Sorge du côté japonais. Comme un rouleau de compresseur, il a choisi les géants de 2 mètres et il prononce un discours. Pourquoi il est populaire ? Peut-être grâce à ces mots qu'il a prononcés. À l'époque, même ici, vous utilisez le terme camarade. À l'époque, c'était vraiment... le terme qui était utilisé pour tout le monde. Il disait, pas les camarades, frères et sœurs, au nom de nos saints, au nom de Christ, nous allons gagner la guerre. Vous comprenez ? C'est les choses comme ça. Et après, vous dites Khrouchtchev. La vérité, si on voulait parler sérieusement, la première tentative de la sortie du communisme, évidemment, ce n'est pas Khrouchtchev. Khrouchtchev, il voulait sauvegarder le système. Khrouchtchev, il a imposé... quelque chose qui a été repris par les historiens, notamment occidentaux, ces derniers temps, en disant qu'il a déstabilisé. En réalité, il voulait sauver le système, il a diabolisé Staline et surtout son chef de service secret qui s'appelait Beria. Et ce chef de service secret, en 1953, il a essayé de faire sortir le communisme, faire la réunification d'Allemagne, vraiment finir avec le système totalitaire à l'époque. Il était tué 3 mois plus tard, en juin 1953, grâce à cela. Vous comprenez, Khrouchtchev, c'est... Et quand on, ça, c'est les archives sont formelles, c'est la vérité. On ne peut pas vivre dans l'illusion historique. Mais pour autant, vous avez gardé l'image sympathique de Khrouchtchev avec son soulier, n'importe quoi, etc.
À l'ONU.
Pour autant, c'est lui qui a essayé de sauver le système. Et Gorbatchev, dans son ambiguïté, il considère que son procureur, si vous parlez de Beria, Gorbatchev est offensé. Mais c'est la vérité. On ne peut pas mentir continuellement. Si on vit dans le mensonge, c'est quelque chose de très dangereux, vous comprenez? Et ça, c'est un problème. C'est un problème de quelle manière il faut vivre l'histoire. Est-ce qu'il faut raconter tout? Mais pour ma part, je suis tout d'abord comme écrivain, ça, franchement, j'essaie de raconter tout ce que je veux, j'ai vu, et pour ma part, je considère qu'il ne faut pas vivre dans le mensonge. Si on vit dans le mensonge, c'est la pire des choses. Et je dois vous dire que les Russes, ils ont excellé dans ce genre d'exercice, et franchement, en partie, je suis désolé de vous dire la vérité, mais c'est la vérité, la France d'aujourd'hui, elle tombe aussi dans l'illusion. Regardez comment vous avez fêté quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de parents, mon grand-père était mort pendant la Première Guerre mondiale. Comment on a traité la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'on a traité pourquoi ça engendrait le communisme? Pourquoi ça engendrait le fascisme? Vous comprenez quelles ont été les victimes? Les victimes. Qui a parlé? Je ne suis pas reporté du tout sur le truc comme ça, mais quand même l'essentiel de victimes, ça m'a amusé qu'il n'y a pas un mot qui a été prononcé. Vous savez bien, ce 40% des victimes des Alliés ont été les Russes. Il n'y avait pas un mot qui a été prononcé à propos de Russes. Ça ne me gêne pas à autre mesure, parce que finalement j'ai habitude de ça. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et c'est pour ça, Khrouchtchev, c'est une illusion. Et après, il y avait une tentative de quelqu'un que j'ai eu quand j'étais jeune, j'étais pendant quelques mois, dans la réalité peut-être quelques dizaines de mois, une dizaine de mois ou quinzaine de mois, interprète de Brejnev, de la langue arabe.
Parlez-moi d'abord de l'affaire de Cuba, sous Khrouchtchev,
qui
a été quand même une crise mondiale majeure.
C'est une affaire aussi... mérite d'être raconté dans le détail. Vous comprenez, on a vécu encore une fois, on a frôlé la guerre. Vous savez, la réalité de ça, on a frôlé la guerre. Mais pendant cette période, on a frôlé plusieurs fois la guerre mondiale. Et ça, c'est un grand problème sérieux, qui existe sérieux. C'est un problème d'information de l'échelon supérieur des gens qui ont le pouvoir. Vous comprenez? Parce qu'un des problèmes majeurs, moi, quand j'étais diplomate de l'autre côté, je dois vous dire que je peux vous assurer que plusieurs fois, et je vois maintenant comme écrivain, comme historien, jusqu'à quel point le monde vivait dans n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il prenait les décisions aux bases complètement erronées. Ça concernait les Américains, ça concernait les Russes. L'affaire de Cuba, je vais vous divertir un tout petit peu. Il y avait quelqu'un qui a travaillé j'aime raconter ça, le futur livre, ça s'appelle « Le roman des espionnes ». J'aime raconter le rôle des gens qui ne sont pas tellement connus, qui ont joué un rôle absolument décisif dans l'histoire du monde. Et finalement, il y avait une sorte de playboy, encore une fois, qui a travaillé comme espion russe, cette fois-ci, qui travaillait sous la couverture journalistique aux États-Unis et qui était copain de Kennedy, à tel point qu'ils sortaient ensemble avec les actrices du d'Hollywood, etc. C'est vraiment un copain. Il savait que c'était un espion. Mais malgré tout, ça les amusait. Vous savez, Kennedy, c'était les gens conventionnels, et ça, c'est les choses comme ça. La crise de Cuba est liée avec ça, vraiment, dans les choses comme ça. La première chose que, évidemment, Khrouchtchev, il essaie d'envoyer les pièces détachées des fusées, et il envoie à Cuba, pensant que ce ne sera pas connu. Des bêtises, aujourd'hui. Toutes les choses sont connues, et encore à l'époque, il y avait quelqu'un qui a travaillé pour les Américains, qui était placé au service de renseignement militaire russe, un certain Penkovsky qui a vendu ça tout de suite, etc. Et tout, tout était connu. Et Kennedy, on tue le vent comme ça. Et après, Kennedy, il disait, la crise est majeure. On va essayer de faire ça. Ils ont essayé 100 fois de tuer... Pourquoi l'évolution aussi, ça, de ça? Ils ont essayé 100 fois de tuer Castro, d'une manière pittoresque, en empoisonnant ses cigares, etc., n'importe quoi, comme d'habitude.
L'opération désastreuse de la baie des cochons.
Et mais les cochons aussi, ça. Bien mais sûr. Entre-temps, ils ont tué, il y a une centaine. Maintenant, les archives sont déclassifiées, nous connaissons ça. Vraiment, ça, c'est les preuves. Ils suppriment simplement les noms des agents, mais tout le reste, les Américains, ils publient. Vous connaissez, on connaît tout ça. Et bref, ils ont commencé. La crise commençait à déraper. Et le monde a frôlé vraiment le désastre total. Pourquoi? Parce que Kennedy, il se disait, la diplomatie n'est pas efficace. Nous allons transmettre à Khrouchtchev les informations à travers leurs copains d'espions Playboy avec lesquels ils sortaient, ils draguaient les actrices d'Hollywood. Et monsieur, il transmettait les informations, mais il n'a pas eu accès à Khrouchtchev. Son accès se terminait avec le chef de renseignement militaire, vous comprenez? Et vous comprenez, les messages ne transmettaient pas. Et la crise a commencé à déraper. Ils ont failli d'appuyer sur les boutons de l'autre côté. En plus, il y avait des folies de votre ami Khrouchtchev qui a donné la possibilité du désarme nucléaire si les gens perdent la communication. Vous savez, au chef des navires, il devait voter. Parce que je suis quand même pointu dans mes récits, c'est un monsieur âgé que j'ai retrouvé. Il a dit, nous avons perdu la communication. J'ai eu le droit. Il y avait des fusées nucléaires sur le bord. Je pouvais appuyer, mais il devait être trois à prendre décision, pas lui seul, de ses adjoints. Et nous avons voté, un a voté pour utiliser les armes, et deux autres, lui-même, et un autre adjoint, a voté. Vous comprenez, on est dans le monde de dingue. Et je vous signale, pourquoi je raconte sérieusement ça? Vous savez, c'est un livre vraiment qui marche sur les gens sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je raconte vraiment les choses telles qu'elles se passent, en alertant du danger de dérapage de ce genre-là, aujourd'hui, vous comprenez, c'est ça le truc. Mais la crise de Cuba, c'était une des crises majeures, à tel point qu'après, ils ont compris qu'il faut arrêter les bêtises. Ils ont installé quand même ce qu'ils appellent le téléphone rouge, parce que pour prévenir, parce qu'il y avait des possibilités de déclenchement de la guerre nucléaire accidentelle, cette fois-ci. Dans les choses comme ça. La crise de Cuba, mais c'est une longue histoire, la crise de Cuba.
Oui, mais enfin, voilà. Ça me semblait quand même important. On va parler de Brejnev, chez qui vous étiez, du fait que vous étiez arabisant, vous étiez son traducteur.
Bien sûr. Brejnev, il a maintenant la cote en Russie. Vous comprenez, il était complètement, à notre époque, il était diabolisé aussi, parce que vous savez, les Russes, ils ont une certaine manière de faire, en France en partie aussi. Vous savez, on dénigre systématiquement les prédécesseurs. Vous comprenez, c'est en partie dans la réalité, mais les Russes, ils excellent, ça c'est vraiment le truc, ils diabolisent. Ils s'en vont encore plus loin que chez vous. Je dois vous dire que Brejnev, il a la cote aujourd'hui, parce que Gorbatchev, il n'a pas la cote, Brejnev, il n'a pas la cote, il a beaucoup plus de populaire Brejnev aujourd'hui que, par exemple, Gorbatchev et Eltsine. Pourquoi? Parce que le pays, il a arrêté les velléités de réforme. C'est un homme pragmatique. D'ailleurs, il n'a jamais été communiste. Il était pour un homme pragmatique, il s'en foutait vraiment quelque chose comme ça. Il était vraiment. Mais il a compris une chose qui était réelle, que finalement, je pense que c'était en partie en naïveté, en partie ce côté vraiment séduisant de Gorbatchev. Il pensait que le socialisme au visage humain, c'est quelque chose qui peut transformer l'Union soviétique, vous comprenez? Brejnev, il n'était pas du tout de cet avis-là. Il disait que si on enlève de ce système l'élément majeur qui est la répression politique. Si on cesse de tuer, c'est foutu. C'est les choses, et finalement, le grand mérite de Gorbatchev, c'est qu'il a cessé de tuer. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il était naïf? C'est une autre question, mais ça n'a aucune espèce d'importance historique. Il a cessé de tuer. Brejnev, comme ça, mais je me souviens, j'étais présent, c'est vrai, je vis physiquement. D'ailleurs, humainement, c'était un personnage assez affable. Mais à l'époque, c'était la mode de parler de réforme. Les gens venaient, disaient les réformes, il faut faire des réformes, réformes, réformes. Et j'ai une réponse qui me revient souvent. Il a dit réforme, réforme, travailler, il faut beaucoup travailler. Vous comprenez, c'était le message de Brejnev. Deuxième épisode, il était un beau général pendant la guerre. Il aimait bien ses copains de la guerre, puisque c'était la jeunesse, etc. Il recevait toujours ses copains de la guerre. Et les gens lui posaient les questions, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et avec son accent ukrainien, il a dit... ne me pose ce genre de questions. Dans ce monde, c'est-à-dire au Kremlin, il n'y avait rien de rationnel. Il ne faut pas chercher la logique. Et ça me revient, cette phrase-là, qu'il faut travailler beaucoup, et d'autre part, qu'il faut pas chercher la logique. Il parlait du Kremlin, mais on peut généraliser dans le monde politique. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher la logique. Vous comprenez?
Enfin, c'est quand même sous son règne qu'il y a eu le printemps de Prague.
Printemps de Prague, peu de gens savent, encore une fois. Vous savez, encore une fois, le diable se trouve dans le détail. Vous savez, c'est lui qui a inventé Dubček. Moi, j'ai connu Dubček, un personnage à la fois séduisant,
oui,
à la fois
très francophile,
toujours, comme toujours, séduisant. Ces gens-là séduisants, puisque nous avons une dette. Moi, j'ai eu la chance, après, quand on a, avec la Perestroïka, de connaître ces gens-là, parce que nous avons ressenti une dette, une honte de printemps de Prague, de ce qui s'est passé avec les chars russes. Et évidemment, après, séduisant, encore une fois, on peut, comme ça arrive, les gens de ce genre-là, plein d'illusions, mais c'est lui qui a inventé, c'est Brejnev qui a inventé Dubček, c'est lui qui a imposé Dubček là-bas, vous comprenez. Et à titre personnel, peu de gens savent, puisque vous savez, c'était paradoxalement, c'était un système dans l'été monarchique très verrouillé, le système soviétique, mais au sommet, il y avait parfois les votes, et parfois il y avait des controverses au bureau politique. Ça remonte au temps. Et autour du printemps de Prague, il y avait de vraies explications. Et paradoxalement, que Brejnev, il était contre l'intervention pour les chars, pour des raisons, pas pour des raisons de l'analyse, il était quand même politiquement fautif, vraiment pas intéressante, mais comme c'est lui qui a imposé Dubček, il ne voulait pas quand même qu'il soit destitué, je crois, et il a fait tout pour qu'il ne soit pas mis en taule, Dubček, après sa destitution, parce que vous savez, dans ce monde-là, on ne donne pas de cadeaux, on tuait aussi des gens, comme vous le savez bien. Et bref, tout ça, c'est la vraie histoire de Brejnev. Mais après, il est devenu gâteux et à sa place...
La maladie a été longue. Quand même.
La maladie était longue, oui. Pas si longue que ça, c'était 6 ans quand même. Six ans. Mais il était... À sa place, il a mis un personnage qui est devenu maintenant le maître à penser de Poutine aujourd'hui. Et à sa place, il y avait, pendant ces 6 ans, quand il était vraiment malade, il était devenu gâteux, il y avait les personnages très vigoureux qui ont régné en Russie. C'était une sorte de Metternich, un ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Gromyko, vous vous souvenez. Et l'autre, il y avait...
Qui était un ministre des Affaires étrangères remarquable.
Inamovible, remarquable, assez pragmatique aussi. Ça, c'est un grand...
Remarquable.
Vraiment, c'est l'école. Tout ça, c'est ce que vous avez avec l'affaire de la Syrie, c'est l'école de Gromyko. Vous comprenez, Lavrov, tout ça, c'est l'école de Gromyko, c'est vrai. C'est des bons diplomates, d'ailleurs. Et il faut dire qu'après, il y avait quelqu'un que vous ne connaissez pas, Ustinov, et l'autre, vous connaissez peut-être vaguement, Andropov. Et Andropov, c'était le plus intelligent de tous, ce qui était quelqu'un qui était néo-stalinien, qui était notre adversaire, mais le plus intelligent de tous, et qui est maître de pensée de Poutine, vous comprenez, et qui a une cote énorme maintenant là-bas en Russie, parce qu'il a proposé tout le contraire de ce qu'on a fait. Parce que vous savez, on a fait les réformes politiques et les réformes économiques. On ne voulait pas tuer. Gorbatchev n'aimait pas tuer. C'est ça la clé de ça. Et en revanche, l'autre, il voulait comme les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois aujourd'hui? Ils tuent, ils font l'ouverture économique étape par étape, vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qu'Andropov, c'était le message de Gorbatchev, d'Andropov. Et c'est ce que Poutine applique, en quelque sorte. Vous comprenez? Ils sont sincèrement persuadés que l'évolution de ces pays, la sortie doit effectuer étape par étape, d'une manière prudente, en faisant tout d'abord l'ouverture économique et après le déverrouillage étape par étape politique. Mes copains, mais c'était une illusion. Autrement, si on a pratiqué ça, à mon sens, c'est un grand débat d'aujourd'hui, parce que c'est un débat entre Poutine et la période précédente, c'est un débat entre les Chinois et les autres. Une question vraiment de tout premier plan.
Est-ce qu'il a été le mentor de Gorbatchev?
En quelque sorte, mentor, c'est pas. Vous savez, Gorbatchev, c'est un personnage très ambigu. Mais c'est vrai, vous utilisez les deux, le terme menteur, et il y avait deux personnages complètement contradictoires qui ont été. Il était choisi par Andropov. Il était choisi pour faire ce que fait Poutine à peu près, c'est-à-dire effectuer les réformes économiques et ne pas toucher au système, sauver le système. Et Gorbatchev, est-ce que c'est par naïveté? Est-ce que c'est Dieu, que c'est le miracle, comme disait Jean-Paul II? Est-ce qu'il était influencé par un autre menteur? Est-ce que c'était sa nature aussi? Parce que nature aussi joue un rôle. Humainement, Gorbatchev, il détestait de tuer. Et ça, c'est. Et si on ne tue pas dans ce système, c'est un système qui s'écroule. Ce que ressentait très bien Brezhnev autrefois. Et je dois vous dire qu'il était choisi, évidemment, pour ça. Il était choisi aussi par les raisons personnelles. Dieu l'a voulu parce que les autres ont été gâteux. Lui, il était le plus jeune de l'entourage. Andropov, il détestait que les gens picolaient. Et c'est les choses humaines qui jouaient un rôle. Et Gorbatchev, il était le seul qui ne picolait pas. Et d'ailleurs, il ne supporte pas le. Qu'ici, Yeltsin boit une bouteille, ça rien ne change. Gorbatchev, il boit, il devient sentimental, il commence à raconter, pas les histoires, il lit les poèmes. Vous comprenez, tout ça, c'est les choses sont comme ça. Et je dois vous dire.
Surtout que Brezhnev disait, pour vivre dans ce pays, il faut picoler. Donc.
Oui. On lui a proposé d'interdire la vodka, etc. Gromyko, qui n'aimait pas la vodka, il a dit, écoute, tu ne connais pas ce pays. Pour vivre ce pays, pour survivre ce pays, il faut picoler.
Mais dites-moi, alors, vous faites quand même un portrait quand même inquiétant d'Andropov, mais on n'en doute pas. Avec un demi-sourire et sur son ton courtois, quoique ambigu, et cette expression indéchiffrable qui finissait toujours par susciter une sorte de malaise. Et vous dites, quand j'ai eu le loisir de l'observer, je constatais que ses yeux changeaient souvent de couleur, laissant parfois apparaître derrière les verres de ses lunettes bordées de noir un éclat glacial.
Bien sûr, parce que vous comprenez, lui, pour moi, c'était quand même une bataille physique entre les deux hommes. D'ailleurs, tous les deux ont réglé cette bataille à travers le personnage. D'où vient l'intérêt de l'écrivain de raconter ça. Parce que c'était une bataille entre les deux hommes, posthume de même. Mais c'était une bataille à travers Gorbatchev. Gorbatchev, il était instrument de chacun d'eux. parce que Gorbatchev a été choisi par Andropov, il l'a mis au Kremlin, et celui qui a inspiré toutes les réformes, qui était mon copain, Yakovlev, qui était devenu le numéro 2, et lui, il prenait tout le contraire. Il disait au contraire qu'il faut absolument, si on veut changer ce système sans effusion du sang, il faut aller vers la liberté, et la liberté, c'est la condition d'une non-irréversibilité de ce système. Et sur ce plan-là, tout d'abord, franchement, cette période a changé ma vie. Moi, j'étais absolument passionné par rapport à ce qui se passait. Je suis persuadé que ça a changé aussi votre vie, parce qu'on est allé vers l'apocalypse et la guerre mondiale. Vous comprenez, c'est la vérité. Et ces gens-là méritent rien que pour ça, ce genre de livre. Ça, c'est d'une part. Et puis, ils ont changé étape par étape en introduisant ce truc grisant qui n'a pas de prix, la liberté. Et c'est devenu irréversible. Ça, je suis persuadé.
J'aimerais bien que vous insistiez sur Yakovlev. Parce que, ici, en Europe, je pense que son rôle est méconnu. Là, on n'en a jamais ou peu parlé. Hein. Et j'aimerais bien que vous parliez de Yakovlev.
Vous savez, je vais vous dire, pas nécessairement. Il est très connu aux États-Unis, au Canada.
Oui, il est très connu aux États-Unis. En France, pas du tout.
Mais vous savez, la France a une particularité. C'était déterminé. Vous savez, la presse, elle déforme les choses. Oui, les historiens, ils sont unidimensionnels. Ils veulent, ils sont. Vous savez comment ça se passe. Vous connaissez vos intellectuels. Ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Ils ne veulent pas avoir une discussion. C'est très difficile, même pour moi, avec mon expérience, c'est très difficile de parler avec eux. Par exemple, quand j'évoque le chiffre de Yakovlev, 25 millions, c'est le chiffre qu'ils ont tué, 25 millions. Vos historiens, ils se rébiffent. Il a dit, quel 25 millions? C'est même pas en millions. Moi, je suis d'origine ukrainienne. Ils ont provoqué une famine ukrainienne consciemment pour que les gens... C'était un truc absolument ahurissant. Si vous connaissez, les gens mangeaient les enfants. C'est terrible. C'est le truc inimaginable. 6 millions de morts, consciemment, pour étouffer la paysannerie un peu plus aisée. Dans les années 30. C'est un truc abominable. Et les historiens, ça, je monte même à la télévision, vous avez vu, je parle avec un peu de distance, mais quand ça me blesse, il y a un historien qui a dit, non, ça, on ne prend pas en compte. Vous comprenez? Ça, on ne prend pas en compte. Et ça, c'est les choses comme ça. Bref, Yakovlev, pourquoi je raconte ça avec beaucoup de plaisir, tout d'abord, c'est un peu mon histoire, parce que vous savez, s'il n'y avait pas de ces gens-là qui ont pris le Kremlin et qui ont détruit le système totalitaire, ça aurait pu durer. Détrompez-vous. On dit que l'économie ne marchait, mais ça n'a jamais marché. Vous comprenez? C'est les choses, c'est le fait qu'ils ont cessé de tuer. Mais vous comprenez, il faut... Les choses, c'est vraiment l'histoire à la Dostoïevski. On est né dans ce système, mais à partir, dans son cas, des considérations à la fois religieuses et éthiques, ils ont tué la bête. Vous comprenez? Il s'est transformé, il était apparatchik soviétique. Il est devenu un des plus grands anticommunistes du monde. Vous comprenez? Celui qui a tué ce système sans effusion du sang. Consciemment, c'est une anticommuniste dans le sens vulgaire du terme, un adversaire du système totalitaire. Je ne voudrais pas blesser les gens qui ont des convictions, mais simplement les choses qui sont comme ça. Et ça, je raconte ça parce que j'ai vu physiquement la transformation de ça. C'est une chose assez extraordinaire. Il était Jean-Paul II, les considérait ces gens-là comme un instrument de Dieu, pour vous dire.
Mais pourquoi on l'appelait le diable boiteux?
Parce qu'il était vétéran de la guerre, il était blessé, il était
comme
un fusil marin.
Talleyrand,
il était malin, c'est pas les enfants. Il boitait. Mm. Mais le diable boiteux, parce qu'il disait qu'il a envoûté Gorbatchev pour en finir avec la censure, pour faire revenir Solzhenitsyn, Nureyev, pour donner le truc de voyager aux Juifs, d'aller en Israël. Tout ça, c'est son œuvre, évidemment. C'est les choses comme ça. C'est un personnage. Mais je me posais toujours, parce que je l'ai vraiment intimement connu, à partir de pourquoi. Et je vous assure, c'était une conviction que vraiment éthique. C'était les convictions, et puis les convictions en partie religieuses aussi.
On peut parler peut-être un peu de Raïssa Gorbatchev.
Oui, bien sûr.
Mais vous en parlez pas mal.
Bien sûr, parce que c'était un couple fusionnel, et puis j'aime raconter les histoires. C'était une grande égérie politique, évidemment, qui a joué un rôle extraordinaire de réconfort. Vous savez, je vais vous dire, Gorbatchev, c'était un être... C'est reste un être assez sentimental, fantasque.
Il avait deux dépendances, vous dites. Il avait une dépendance de sa femme,
oui, bien
et
sûr.
De ses origines.
En partie, oui. De sa femme, certainement, il l'a reconforté. C'est une stabilisation. Mais vous savez, franchement, je vous apprends rien de nouveau. Vous connaissez très bien que les hommes sont plus fragiles que les femmes. Ils pleurent. On connaît. Et c'était dans ce genre-là. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'était un truc subtil. S'ils avaient annoncé, quand ils l'ont pris au pouvoir, qu'ils ont pris le message de détruire ce système, il aurait été fusillé tout de suite. Alors, il fallait l'habillage. Ils ont habillé ça. Qu'est-ce que c'est la perestroïka? La perestroïka, c'est un habillage de réforme, de la sortie du communisme. Mais s'ils l'habillaient, ils ont sorti du communisme, on était fusillés. Ils disaient la perestroïka. Qu'est-ce que glasnost? C'est la liberté de parole. C'est l'absence de la censure. Mais on habillait, on disait que ça n'allait pas la liberté. C'est glasnost, incompréhensible. Et chaque fois, quand il fallait choisir entre le retour en arrière, entre l'utilisation de la force... Vous comprenez, il y avait discussion, parce que la spécificité, finalement, je raconte ça dans le livre, qu'il y avait autour de lui des tendances tout à fait différentes. Il était contradictoire, il y avait une tendance personnifiée par Yakovlev.
Il y avait même des affrontements entre les conseillers.
Évidemment, bien sûr, évidemment. Mais dans son entourage, il y avait les gens héritiers d'Andropov qui ne voulaient pas du tout la sortie du communisme. Gorbatchev, il dit après coup qu'il a tout voulu. Dans réalité, c'est très difficile à dire. Ce qu'il a voulu... C'est surtout le printemps de Prague. Et à la différence, là où il y a la différence de fond, de l'analyse pragmatique, vraiment, que nous pensions que le système était irréformable et qu'à un certain moment, il fallait soit le détruire, soit il va vous bouffer. Et Gorbatchev, il jouait tout son contraire. Et ça, c'était sa force. Les Russes le détestent pour ça. Mais, parce que les Russes, ils aiment la vraie fausse grandeur, vraiment, les gens. Mais au-delà de ça, dans réalité, ce côté artistique flou de Gorbatchev a sauvé le monde. Parce que, vous comprenez, s'ils annonçaient, et Raïssa a joué un rôle extraordinaire de réconfort. Mais je vous dis, je ne vous apprends jamais, souvent, les femmes jouent un rôle stabilisateur. Il était en plus, comme méridional, comme artiste, un être, à mon sens, assez instable. Et à côté d'elle, il se transformait. Il la stabilisait toujours. D'ailleurs, il la touchait tout le temps pour puiser l'énergie en elle, etc. Et elle a fait, notamment pendant la crise de Berlin, sur la chute du mur, Yakovlev et elle, ils ont joué un rôle absolument historique en poussant du côté de la liberté. Mais parfois, encore une fois, vous dites que je raconte tout. Vous savez, elle s'est trompée parfois d'une manière vraiment évidente. Le cas classique, pour vous divertir, c'est elle qui a fait la fortune d'Eltsine politique. Parce que Eltsine, il était lieutenant de Gorbatchev. À un moment donné, il est passé à l'opposition. Et à ce moment-là, tout le monde savait qu'il picole. Alors, ils ont filmé Eltsine complètement
givré.
Aux États-Unis. Ils ont présenté ça à la télé en pensant que ça va nuire à la réputation d'Eltsine. Et le lendemain, ils ont vu que les sondages, 30% de plus d'avis favorables. Parce que les Russes, ils disaient, il est comme nous, il picole, il a des à côté, c'est trop bon. Alors ça, c'est, il ne faut pas se tromper sur les messages. Les gens se trompent. Les gens, vous savez, il faut, c'est un art, les choses comme ça. Mais cela dit, c'est un personnage vraiment sympathique qui a transformé beaucoup les Russies, puisqu'il était à l'époque, il aimait s'habiller, il introduit, il était...
Vous allez un peu vite. Parlez-nous du putsch du 16 août, là. Comment ça s'est passé ?
Le putsch, encore une fois, une période très oubliée. Dans cela, c'était une période qui aurait, ça aurait pu tourner. C'était le 21 août 91. Peut-être vous vous souvenez un tout petit peu quand Yeltsin, le char, etc. Ils ont fait entrer le char là-bas. Ils ont failli renverser ça, failli. Et c'est une réalité très dure à raconter. Il y avait deux ou trois épisodes. Je vais vous divertir un tout petit peu parce que j'étais porte-parole à l'époque des antipoutchistes et j'ai tout vu vraiment. Les choses sont passées comme ça. Il y avait tout d'abord un épisode médiatique. Il y a un épisode de service secret et un épisode complètement méconnu qui a changé la donne. Tout d'abord, l'épisode médiatique. Ils ont fait arrêter Gorbatchev dans le midi, quand il était en vacances, à Foros. Ils arrêtent Gorbatchev et ils font, ces gens-là qui ont remplacé, notamment son vice-président, une conférence de presse. Conférence de presse. Et ça, c'est les médias, en direct à la télé. C'était un monsieur, tout d'abord, il aimait aussi le coller, mais il aimait aussi les jeunes filles. Et devant lui, au premier rang, il y avait une jeune fille en mini-jupe, une stagiaire. Et elle dit, monsieur, je voudrais poser la question. Et c'était plus fort que lui. C'était pas prévu. Il a donné la parole à cette femme. La jeune femme, il faut dire. Et elle a dit, monsieur, vous savez, vous rendez compte, vous avez fait un coup d'État. En direct, elle lui dit. Jeune fille, 18 ans, stagiaire. Et comme monsieur, c'est ce monsieur, il s'appelait Yanaïev pour les initiés, il était instable et vraiment l'ivrogne invétéré. Quand il a répondu comme ça, sa main a commencé à trembler, comme ça. Et là, le caméraman de la télé soviétique officielle, au lieu de lui montrer le visage, ou même mini-jupe d'une dame, il a montré la main. Il a fixé, c'est énorme, 20 secondes, la main qui tremble. Et c'était en direct. Et c'était une image qui a changé la donne, puisque tout le pays a regardé ça. Et vous savez, les Russes, ils ont dit, c'est pas le putschiste, c'est les dégonflés, etc. Ils ont commandé. Après, il a changé la donne. C'est vrai que l'initiative, j'étais avec Eltsine à l'époque, quand il est monté sur le char, c'était son initiative. C'était, comme j'ai parlé, un flair extraordinaire. Et lui a monté sur le char. Mais le reste, c'était une organisation. Les Américains essayent de nier, mais comme j'étais à l'époque vraiment, j'ai vu ça, je peux vous dire que c'était organisé par les CIA, la transformation. Il y avait les Américains qui ont fait le barrage pour amener. C'était quand même entouré par le KGB, tout ça, c'est par les services spéciaux soviétiques, et pour arriver à transmettre le papier, le message d'Eltsine, il fallait amener physiquement. Et ça, c'est les Américains vraiment très spéciaux qui ont amené un correspondant CNN qui a retransmis ça dans le monde entier, qui a changé complètement la donne. Mais la chose définitive, c'était pas lié ni avec... Parce qu'au début, on n'est pas nombreux. 1000 personnes, après, ça a commencé à affluer un tout petit peu. Mais c'était... Il y avait le courage d'Eltsine, il y avait quelques résistants. Mais vous savez à quoi ça se jouait. Vous savez, c'est quand même qu'on se connaissait tous. Et Yakovlev, quand il y avait un moment, le vin le matin, on ne savait pas comment ça se tourne, il prend le téléphone. C'était un téléphone spécial du Kremlin. C'était à la mairie. Et il téléphone au ministre de la Défense et il le prend. Et il a dit, écoute, tu sais, on est des vieux vétérans de la guerre. On n'a rien à perdre. Si vous voulez que tu penses à tes petits-enfants, pas à tes enfants, pense à tes petits-enfants. Si tu tires sur la foule, tu seras à jamais vraiment un personnage le plus honni du pays. Et ce monsieur qui a dit « Détrompe-toi », on l'appelait Alexandre Sacha, en diminutif Sacha, « Détrompe-toi, je fais entrer les chars, mais les chars sont sans munitions. » Et l'autre raccroche, il a dit « C'est pas un vrai putsch. »
Ils sont foutus.
Ils sont foutus.
Ils sont foutus.
Voilà. Et ça, ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est un épisode assez important dans la réalité. Encore une fois, les Russes, ils veulent oublier ça. Ils veulent oublier cet épisode parce que, pour eux, la fin de l'Empire soviétique, c'est quelque chose qui était une blessure. Ils pensent que c'est un complot occidental qu'il a amené. Et puis, ils n'aiment pas du tout. Il n'y a aucune espèce de festivité, rien du tout. C'est l'événement majeur du XXe siècle. Rien. Les gens veulent oublier cette période. Ils ne veulent pas entendre parler ni Gorbatchev, ni d'Eltsine, paradoxalement. Paradoxalement, d'Eltsine, qui a engendré après Poutine. Et je dois vous dire qu'Eltsine, il appartient à cette race que vous connaissez très bien, d'ailleurs. Vous savez, à cette race des gens qui sont bons quand ils font la campagne, mais qui sont nuls quand ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Et ça, c'est les choses qui Eltsine, il appartenait à cette race-là.
Je ne parle pas de rapprochement.
Non, je ne parle pas de la France. Non, vous rigolez. Je parle de l'autre situation. Mais vous comprenez? Et ça, c'est les choses. Et ça, c'est une chose. Vous savez, c'était quelqu'un qui était, quand il était un personnage spontané, pour un personnage qui était de la combat pour le pouvoir. Et je me souviens, j'étais avec lui. Il était écrasé par le fardeau qui lui tombait. C'était un personnage, vous savez, vraiment un personnage qui était rongé par la responsabilité historique. Et il était rongé par l'idée qu'il faut rendre ce processus de la fin du communisme irréversible. Irréversibilité, non-retour en arrière. Et là, il a commis, et finalement, c'est Dieu qui jugera, on ne sait pas. Je ne suis pas certain qu'il y avait un autre choix. Mais il a dit, il n'y a pas d'autre choix, on va les nommer milliardaires. Hier, vous étiez ministre nomenclaturiste Baratchik. Demain, pour les choses symboliques, vous devenez vraiment milliardaire en dollars.
Les milliardaires autorisés.
On m'a nommé milliardaire, ça s'appelle. Vous comprenez? Et ça a coûté énormément cher pour lui, parce que je n'ai pas le temps de l'approfondir, mais vous comprenez, il était à mon époque 80 avis favorables. Il est terminé avec vraiment quelques pourcents d'avis favorables, et encore, certains disent peut-être 2% d'avis favorables dans les meilleurs de cas. Vous comprenez? C'est une déchirure, surtout qu'il était, comme souvent, c'est une drogue le pouvoir. La popularité, c'est une drogue. Il perdait. Vraiment dans le sens, il ne savait pas quoi faire, échanger les premiers ministres, chercher qui peut le remplacer, et finalement il s'adressait à un petit ami de sa fille. Je vais vous raconter comment Poutine elle était inventée. Le petit ami, l'antithèse de la perestroïka, il a dit mon président, il était comme souvent avec ce genre de fille de président, il était en même temps son conseiller, parce qu'elle n'allait pas, elle n'a pas de temps, elle s'occupait de son papa, alors elle prenait ce qui était pas loin. Et bref, c'était il écrivait les discours de d'Eltsine, et il dit, mon président, vous avez quelqu'un qui est votre adversaire, qui est en bonne santé. Vous êtes malade, prenez un jeûne. Vous avez quelqu'un qui est nationaliste. Prenez plus nationaliste. Et vous avez quelqu'un qui vient de la galaxie du KGB, des services secrets. Alors, prenez carrément l'officier du KGB. Ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai, sauf l'ordinateur, mais le reste, il m'a raconté. Alors, c'est comme ça que Poutine a été choisi. Après, il y avait six Poutines ambivalents. Poutine, antithèse de la perestroïka, il faut comprendre.
Vous comprenez? C'est ce que vous dites.
Oui, oui. Et
vous ça, dites, c'est l'antithèse.
Parce que, vous comprenez, le message, c'est la liberté et les réformes. On n'a pas peut-être fait assez de la réforme, mais quand même, la liberté était là. Il déteste ces années, Gorbatchev. Il déteste les années d'Eltsine, même s'il était engendré par Eltsine. Et il est sincèrement persuadé, d'où vient le parallèle avec une histoire longue, qu'il était envoyé par la Providence pour assurer la grandeur de la Russie. Je n'aime pas son côté à l'intérieur. J'étais un des premiers à le critiquer, parce que vous savez, compte tenu qu'on a combattu pour l'ouverture, le retour en arrière, c'est pas ma tasse de thé, et j'ai pensé que c'est contre-productif, absence débat d'idées, etc. Et puis le verrouillage du Parlement, le verrouillage du système, le Stam, les gens qui ont été mis en taule, comme seul l'homme le plus riche. Et j'étais assez virulent, pas virulent, mais je racontais d'une manière directe ça. Jusqu'à paradoxalement cette affaire syrienne. Et cette affaire syrienne, je suis un peu nuancé par rapport à lui. Je distingue ce qu'il fait dans le domaine de la politique intérieure. Et dans l'affaire syrienne, je pense qu'ils ont très bien joué. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais arabisant quand même, j'étais spécialiste. C'est une affaire terrible, plus de 100 000 morts, des gens déplacés, c'est une impasse. Et vous comprenez, dans ce genre de... C'est pour ça que je raconte mes histoires aussi. Il faut être très pointu, on ne peut pas se tromper ni de message ni d'équilibre dans cela. Et paradoxalement, dans cette affaire, moi je n'aime pas Poutine, c'est ma tasse de thé, mais il a posé un vrai problème de l'analyse politique. Vous savez, depuis quelques années, aux États-Unis, mais en partie en Europe, il s'est développé une théorie. Je vais vous raconter, j'étais présent à la création de cette théorie, parce que j'étais historiquement arabisant, et les arabisants, c'est la mafia. On était jeunes autrefois, on se connaissait dans le monde entier, les gens qui s'occupaient des pays arabes. Et après, ils sont devenus parfois les généraux de service en France. Bref, j'ai eu un arabisant américain que j'ai connu, qui est devenu maintenant conseiller d'Obama, qui est spécialiste du monde arabe, etc. Et il était de passage, il me téléphone, il dit, voilà, je voudrais avoir ton avis. J'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas du tout en affaire, je peux te raconter mes histoires et pour vendre mes livres, mais pour d'autres... Non, je voudrais ton avis, tu l'as tous connu, tu as connu de l'autre côté. On a inventé une théorie. C'est maintenant une théorie officielle qui va devenir une théorie. J'ai dit, écoute, on dîne à Paris, et il a dit, la théorie, c'est le soutien de l'islamisme modéré. Il a dit, islamisme modéré, il faut soutenir l'islamisme modéré. J'ai dit, écoute, tu sais, tu connais mieux que moi, l'islam et l'islamisme, c'est deux choses différentes, c'est l'utilisation dans le but politique. Mais pour ma part, avec mon expérience, je peux te dire que l'islamisme modéré, c'est comme le bolchevisme modéré. Ça n'existe pas.
À visage humain.
Voilà, c'est le truc, exactement. C'est des bêtises. Il a dit, non, tu verras, on va appliquer ça, tu verras, on va appliquer ça en Libye, on va appliquer ça en Tunisie, on va appliquer ça en Égypte, et on va appliquer ça en Syrie. Tu verras. Entre-temps, ils ont appliqué ça en Libye, ça a donné une pagaille, une charia, vous connaissez, le temps non droit. Ils ont appliqué en Tunisie le marasme total. Ils ont appliqué ça en Égypte, ça a donné l'intervention de l'armée. Et Poutine, il a posé ce problème par rapport à la Syrie. D'accord, on peut virer Assad, et peut-être c'est souhaitable qu'on vire. D'ailleurs, ils n'ont pas de fixation par rapport à Assad. Pour eux, la fixation réelle, c'est la création d'un régime, comme disent les partisans de ça eux-mêmes, d'un régime de khalifat, ils s'appellent ça. Les khalifats de Boukhara à Poitiers. Mais enfin, pour Poitiers, je vous laisse juger, mais pour Boukhara, je peux vous dire qu'à Boukhara, c'est possible. Vous comprenez, ça c'est... mais ça, c'est leur phrase, on peut le lire. Vous comprenez, c'est les choses comme ça. Et Poutine, il a dit, non, cessons de raconter les histoires. Je suis d'accord avec toi. Je vous ai donné le feu vert pour Libye. On a essayé de faire ça. Ça a donné ce qu'a donné. Votre ambassadeur a été tué, l'ambassadeur américain qui a livré les armes aux islamistes. C'est un truc diabolique, les choses comme ça. Et il a raconté ça. Et finalement, il y avait une vraie explication, parce qu'il a parlé de ça. Mais dans l'affaire, ce qui est formidable pour moi, que les deux ministres, moi je considère que c'était vraiment avec ma critique de Poutine, mais les deux grands ministres des Affaires étrangères, parce qu'à la fois Lavrov, il s'appelle le russe, et Kerry, ils ont trouvé ce que je raconte dans ce livre, l'équilibre des intérêts. Vous comprenez? Ils ont trouvé le maillon faible, les armes chimiques. Et finalement, ils ont entrouvert la porte pour la recherche des équilibres des intérêts en oubliant le côté électoraliste, en oubliant les votes d'origine musulmane. Vous comprenez toutes ces choses-là, parce que dans la foulée, il parlait, parce qu'il disait, vous trompez. Vous déterminez ça à partir, Obama à partir du Congrès, 85% des gens votent. Voilà, c'est ça les choses qui se sont passées. Voilà.
Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée.